Bon, on va commencer. Merci beaucoup d'être là pour cette conférence sur les enjeux climatiques en Méditerranée et dans les pays du pourtour méditerranéen. Je pense que c'était un rendez-vous qui était attendu, surtout après cet été où l'actualité climatique notamment était très focalisée sur la zone méditerranée. Donc je suis très heureux d'être avec vous en bonne compagnie et on est nombreux autour de la table. Si vous me permettez, je commence par présenter nos intervenants. Alors, nous avons tout d'abord Ada Bekouche, qu'on ne présente plus, adjoint au maire de Colombes, en charge de la coopération décentralisée, et puis surtout président du groupe Pays Tunisie de Cité Unie France. À côté de lui, Philippe Meunier, délégué général de l'AVITEM, l'Agence des villes et territoires méditerranéens durables, c'est ça ? Et ancien ambassadeur de France. À côté de lui, Soumaya Elouaer de la FNCT, la Fédération nationale des communes tunisiennes, accompagnée de la directrice générale de la FNCT. Non, directrice des partenariats, je crois.
De la communication.
Communication. Merci pour cette précision. Et puis Mélodie Boissel, à côté d'elle, du PSO, en charge du Maroc et de la Palestine, et aussi un peu du Liban. Pays du bassin méditerranéen. Je vais vous donner les micros tout à l'heure pour que chacun entende. Et puis à côté de moi, Maëlys Daboville, directrice générale de Occitanie Coopération. Je pense qu'on peut... commencer. Est-ce que Ada, vous pourriez nous rappeler voilà, les enjeux de cet atelier et la nécessité qu'il y avait à le tenir aujourd'hui ?
Oui, je pense. Oui, ça marche. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous cet après-midi. Donc, on va parler d'une région particulièrement importante et des enjeux primordiaux. Ce que je peux dire en introduction, c'est que on vient de sortir d'un atelier, là, d'un des deux ateliers importants, l'atelier sur l'Afrique. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se recoupent avec la discussion qu'on vient d'avoir. Sachant que l'Afrique, si je puis dire, et particulièrement les quelques pays du Sahel, de l'Afrique subsaharienne, aujourd'hui ont une relation particulière avec l'État français, donc les États. Je parle des États. Ça a été évoqué longuement. Pour la Méditerranée, c'est aussi une histoire très, très forte et profonde. Qu'est-ce qui nous lie, nous, tous les pays du pourtour méditerranéen ? Ben, la mer. Cette mer qui occupe une place primordiale dans l'histoire de l'humanité et particulièrement donc, dans l'histoire récente de cette région-là. Moi qui suis un ancien et de la coopération et des questions internationales, je me rappelle en 1976, il y a eu un fameux plan bleu qui a été lancé par les Nations Unies et qui était basé à Barcelone. Et ce plan bleu avait pour objet de traiter les maux de la mer Méditerranée et particulièrement la pollution, la pêche, le climat. Et depuis 1976, les choses, malgré ces plans et ces mesures qui ont été prises aussi bien par les Nations Unies que par les États riverains, les choses ne se sont pas améliorées, malheureusement. Alors, ces dernières années, on a vu que la situation a empiré, que ce soit au niveau des incendies, que ce soit au niveau du manque d'eau, que ce soit au niveau des intempéries. Et puis, il y a une semaine, tout simplement, on a vu ce qui s'est passé en Libye. Donc, et ces enjeux sont multiples. Si on ajoute ce qui se passe aujourd'hui à Lampedusa, donc en Italie, qui a vu l'arrivée de près de 10 000 migrants, dit-on, de personnes qui cherchent asile en Europe et auxquelles l'Italie est confrontée. Et dans toutes ces problématiques, dans toutes ces questions, les États sont à la manœuvre. Les États sont à la manœuvre, mais ils n'arrivent pas même pas à réduire, en tout cas, ou à limiter les problèmes dus à ces enjeux et à ces défis. Et la France, je pense, a un rôle important. Mais c'est un rôle important qu'elle n'assume pas tout à fait, malheureusement. Et donc, le rôle des collectivités territoriales est important. Le rôle des sociétés civiles est important. Le rôle des sociétés tout court. Le rôle également des collectivités territoriales avec le soutien de l'État est important. Mais il faut aussi se rendre compte que ça ne sera pas facile, malgré l'histoire longue de la coopération décentralisée depuis les années 80 et 90. Parce que au sud de la Méditerranée, on connaît beaucoup de problèmes. Et on connaît un gros problème dans la Méditerranée du sud, de l'ouest, du sud et de l'ouest particulièrement. Ce sont trois États dont l'intégration serait la plus facile et qui n'est pas réalisée. Le fait qu'il n'y ait pas cette intégration, c'est un problème. Au nord, on connaît des problèmes de plus en plus importants suite au... J'allais dire grâce, mais ce n'est pas grâce, c'est à cause du rôle important des mouvements politiques populistes. Donc la question des migrations se pose. Et puis, donc on se rend compte de plus en plus que le rôle de l'Europe est important dans ces enjeux pour apporter ces solutions. En tout cas, malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces limites, malgré tous ces obstacles, je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose entre tous les pays de la Méditerranée, du pourtour méditerranéen. La France a une histoire, bien sûr. La France doit avoir un avenir dans ces enjeux-là, dans la solution à apporter à ces enjeux, à ces défis. Mais surtout, je pense qu'il y va de la survie des peuples du pourtour de la Méditerranée et de ces sociétés. Et je pense que les collectivités territoriales doivent jouer leur rôle. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve cet après-midi pour voir quelles sont les expériences des uns et des autres par rapport à ces enjeux, particulièrement à l'enjeu du dérèglement climatique, mais pas uniquement, au-delà des enjeux du développement, les enjeux des migrations, les enjeux d'égalité femmes-hommes, les enjeux de l'emploi, les enjeux économiques. Bref, voilà. Donc on est à l'écoute de vos expériences, de vos expertises, de vos réflexions, de vos analyses et de vos suggestions. Voilà ce que je peux dire en introduction.
Ça marche. Merci beaucoup, Ada. Est-ce que, pour rebondir sur cette présentation de l'importance du rôle des collectivités, M. Meunier, vous pourriez nous faire un petit cadrage sur les enjeux climatiques dans la zone méditerranéenne et puis au prisme de la Vitem et des projets menés en ce sens, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Je voudrais surtout... m'inscrire dans la suite de ce qui a été dit à l'instant et puis m'excuser de devoir partir très vite parce que j'ai un train pour Marseille. Vous savez que la Vitem est basée à Marseille et que Marseille est une ville où se passent beaucoup d'événements, notamment cette semaine, mais pas uniquement cette semaine, mais ça s'intensifie. Et puis vous dire que je représente Agnès Rampal qui était empêché et qui regrette vraiment de ne pas être avec vous dans cette salle. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, la Méditerranée est dans une période où plus que jamais la coopération est indispensable, que nous avons une situation dans laquelle non seulement il y a des choses alarmantes, et je vais en dire quelques mots, mais c'est aussi la Méditerranée qui doit montrer le chemin. Parce que ces phénomènes de bouleversement climatique qu'on connaissait un petit peu de manière beaucoup plus modérée, mais qu'on connaissait quand même, en Méditerranée, ils sont en train de monter au nord et d'atteindre l'ensemble du territoire français. Et donc, là aussi, je pense que c'est très, très important que la Méditerranée, comme elle l'a toujours fait dans l'histoire de l'humanité, elle montre un peu le chemin. Je pense aussi que sur ces questions, les collectivités territoriales ont un rôle déterminant à jouer, parce que c'est je pense notamment aux villes, aux métropoles, à toutes ces métropoles du littoral de la Méditerranée, mais aussi aux arrière-pays, qui sont très, très importants. On ne devrait plus dire, d'ailleurs, les arrière-pays. C'est tout aussi important que le littoral. Et il faut qu'on travaille ensemble, parce que c'est comme ça que la Méditerranée s'est faite. Comme monsieur vient de le dire, si nos pays au sens territoire se ressemblent, c'est parce qu'il y avait la Méditerranée pour nous connaître et pour naviguer et qu'il n'y avait pas d'obstacles entre ces territoires. Donc, et le dernier point que je voudrais souligner, le point général, c'est que la Méditerranée, c'est toute la Méditerranée. Ce n'est pas seulement des rapports liés à l'histoire coloniale ou post-coloniale, c'est le bassin méditerranéen. Ce sont des enjeux donc à l'est, au sud, à l'ouest de la Méditerranée, quelles que soient les histoires qui ont pu être au moment de la révolue de la colonisation, mais c'est une communauté de destin. Nous sommes tous dans le même bateau et nous avons tous des solutions à partager. Donc, ce que à la Vitem nous essayons de faire, c'est d'abord d'avoir cette idée que les collectivités territoriales ont des choses à s'apporter. Et, moi, je suis diplomate de formation. J'ai beaucoup travaillé y compris dans les négociations, par exemple, climatiques. C'est très bien, les négociations internationales, les COP. Il y en a eu une très importante à Sharm el-Sheikh, où il y a eu un espace méditerranéen avec une identité méditerranéenne qui s'est affichée. Mais nous devons le faire avec une idée systémique, parce que comme mon prédécesseur l'a laissé entendre, elle a dit, les questions se percutent. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est vraiment la question centrale ou une question centrale, mais on n'a pas de solution en regardant uniquement le climat, si on ne parle pas de la biodiversité, de la santé, de toutes les dimensions durables qui sont bouleversées par le climat. Donc, comment très concrètement essayer d'apporter des petites solutions? Alors, ce que nous faisons, c'est d'abord de regrouper un certain nombre de, j'allais dire, la quasi-totalité maintenant des collectivités territoriales méditerranéennes françaises, avec un appui du gouvernement français, de travailler ensemble, y compris évidemment avec la région Occitanie, qui n'est pas encore membre de la Vitem, mais qui nous fait travailler sur des marchés, notamment avec les régions du Maroc. Donc je veux aussi remercier la région Occitanie pour cela. Avoir cette équipe France méditerranéenne, avec évidemment la dimension insulaire de la collectivité de Corse, qui est membre de la Vitem, travailler sur des projets européens, parce qu'il faut aussi embarquer l'Europe. Et de ce point de vue-là, vous savez qu'il y a cette initiative de la macro-région qui est poussée par le Parlement européen, par le Comité des régions en Europe, et nous espérons fortement qu'elle aboutisse pour avoir cette dimension toute globale de la Méditerranée. Et à partir de ça, que la Vitem soit, comme c'est une agence opératrice pour les collectivités territoriales qui en sont membres, qu'elle soit aussi un opérateur de la future macro-région. Alors, sur les projets, et j'arrêterai là, quelques On essaye de prendre en compte les grandes thématiques et de les regarder de manière transversale. J'inclus là-dedans le tourisme, parce qu'en Méditerranée, le tourisme est une activité économique importante. Et donc, le post-Covid, le tourisme durable, tout ça, c'est extrêmement important. Tout ce qui est les problématiques de l'eau, de l'eau douce, de la montée des eaux sur le littoral. Nous avons un exercice habituel que certains d'entre vous connaissent de séminaires métropolitains qui se déroulent sur beaucoup de métropoles en Méditerranée. Il a eu lieu dans la période récente à Casablanca, à Izmir, à Beyrouth et bientôt à Alexandrie. Donc là, évidemment, on a cette thématique de la montée des eaux en Méditerranée, mais qui va être très, très, très forte. On a des thématiques énergétiques qui sont vraiment très, très importantes. Il y a une capacité en énergie renouvelable et en hydrocarbures au sein de la Méditerranée. Il faut qu'on soit capable de gérer correctement. Entre les pays, avec des questions aussi de domaine maritime, des questions qui peuvent être conflictuelles. Et puis, il faut que nous soyons sur cette adaptation au changement climatique dans toutes ces dimensions. Et là, nous avons des territoires qui sont, j'en reviens un peu à ce que je disais au départ, qui sont des territoires avec très contraints, avec des défis considérables dans les milieux sahariens, évidemment. Dans les situations insulaires, beaucoup d'îles qui sont confrontées à des situations qui font qu'elles peuvent être un laboratoire pour trouver des solutions, à condition qu'on ait des solutions adaptées avec... peut-être de la high-tech, mais surtout de la low-tech, avec des entreprises et des acteurs de la société civile qui participent à la configuration de la politique des collectivités territoriales, comme une équipe territoriale dans chacun des territoires, et en prenant de plus en plus une démarche qui consiste à trouver des solutions adaptées au territoire en question. La mobilisation de la société civile est remarquable, les négociations internationales ont eu leur mérite, mais maintenant, il faut qu'on décline sur la Méditerranée ces solutions. Et je suis convaincu que la Méditerranée, ce n'est pas seulement une situation extrêmement préoccupante, hein, puisque la Méditerranée est un hotspot pour le climat, pour les microplastiques, pour des tas d'autres dimensions, mais c'est aussi montrer le chemin à la fois de la coopération entre des territoires qui appartiennent à des géographies vraiment, vraiment similaires et qui ont beaucoup de choses à partager ensemble, y compris sur des vieux savoirs traditionnels, des vieilles pratiques qu'on a un peu trop abandonnées, d'ailleurs peut-être plus dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Voilà, donc c'est vraiment un travail de coopération, de collaboration en mobilisant l'ensemble des énergies et l'Union européenne qui doit être au rendez-vous également pour faciliter les choses. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Meunier. Vous avez commencé à parler de la situation au niveau de l'eau en Méditerranée, la pollution marine. On peut aussi parler de l'augmentation de la température de l'eau en Méditerranée, l'acidification de la mer. Mais au-delà de ça, pour les territoires, on peut aussi, je pense, parler de la nécessité de sécuriser les ressources en eau. Vous avez fait mention de la low-tech. Je pense que Mélodie Boissel, tu pourras nous présenter un peu plus en détail cette situation.
Si j'arrive à... C'est bon, micro est déjà allumé. Très bien.
Je vais te projeter ton diapo, si
Est-ce
tu veux.
Est-ce que j'ai un petit télécommande ? Hop là, merci. Oui, je vais commencer quand même. Mmh. Du coup, je vais faire un focus sur le secteur de l'eau et l'assainissement, puisque je représente le programme Solidarité Eau, qui est une association qui agit dans le cadre de l'objectif de développement durable 6 pour l'accès à l'eau et l'assainissement pour tous. Et nos actions d'appui-conseil, de formation, de mise en réseau, de diffusion-production de connaissances, ont pour objectif de renforcer la connaissance sur ce secteur de l'eau et l'assainissement dans les pays à revenus faibles et intermédiaires et d'augmenter la qualité, la quantité des actions de solidarité internationale sur ces sujets. Alors je vais aller rapidement pour ne pas garder la parole trop longtemps, mais ces activités-là, on les structure sous la forme de l'animation de différents sous-réseaux, des réseaux pays qui ciblent les acteurs qui interviennent dans un même pays. Dans certains pays, on a impulsé la création de plateformes locales qui, pour le coup, mettent en lien les acteurs qui sont concernés par le secteur de l'eau et l'assainissement au niveau local. On organise aussi ces activités en France sous la forme de réseaux régionaux pour mettre en lien les acteurs implantés dans une même région, pour créer une dynamique régionale autour de la solidarité internationale sur l'eau et l'assainissement. Et on travaille pour cela, bien sûr, avec les réseaux régionaux multi-acteurs. Et on a aussi un volet de travail d'approfondissement et production de connaissances où on cible certains sujets pour chercher à diffuser des messages particuliers, à vulgariser au niveau technique et méthodologique certains sujets en jeu et à rediffuser ces connaissances dans nos différents réseaux. Et bien sûr, comme on est un réseau, on a une forte vigilance voilà, sur la communication et le plaidoyer qui sous-tend toutes ces activités. Voilà, donc je vais faire un focus sur le secteur de l'eau et l'assainissement, mais également sur certains pays seulement, ceux qui sont ciblés par la coopération décentralisée non gouvernementale française dans les pays à revenus faibles, intermédiaires en l'occurrence dans le bassin méditerranéen, qui sont Maroc, Palestine, Liban et Tunisie. Donc ça va être très schématique et très rapide, mais je vais essayer de dresser un petit peu le contexte des secteurs de l'eau et l'assainissement dans ces quatre pays, le contexte de ces secteurs de l'eau et l'assainissement, mais voilà, en montrant un petit peu en quoi ils sont impactés par le changement climatique et de préciser comment la coopération centralisée non gouvernementale prend sa place face à ces enjeux et donner quelques exemples de projets qui répondent, que l'on peut considérer comme répondant à ces enjeux. Donc, je vais rapprocher le Maroc et la Tunisie pour évoquer la situation des services d'eau et d'assainissement. Donc on est déjà dans une situation, mais je ne vais pas abreuver de chiffres, mais globalement, on est déjà dans une situation de stress hydrique avec des ressources en eau qui sont déjà structurellement réparties de façon inégale sur les territoires et un usage qui est très majoritaire pour ce qui est de l'irrigation agricole. Donc, bien sûr, les effets du changement climatique, c'est classiquement qui se font beaucoup ressentir dans ces pays-là. Une hausse des températures, une baisse et irrégularité des précipitations, c'est évident ce que je dis, mais voilà, c'est vraiment très prégnant, vous le savez tous, dans le bassin méditerranéen, avec pour effet des sécheresses, des inondations. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les autres facteurs qui ne sont pas directement liés au changement climatique, mais qui se corrèlent fortement à ces effets-là, liés à l'activité humaine, une croissance démographique, en particulier dans les zones littorales et urbaines, développement urbain, industriel, touristique et agricole. Et les secteurs de l'eau et l'assainissement, dans ce contexte-là, en zone urbaine, on a un accès aux services d'eau d'assainissement bien développé, total, quasi total, avec dans les zones rurales encore des développements à conduire, en particulier sur l'accès à l'assainissement dans les zones rurales. Donc ça, c'est important de le préciser quand même. Même si c'est un petit peu peut-être annexe au sujet aujourd'hui, mais voilà, c'est finalement les partenaires de coopération décentralisée. Au Maroc, alors vous le savez certainement mieux que moi, certains, hein, mais pour rebalayer un petit peu le contexte, au Maroc, la compétence de l'eau et l'assainissement est décentralisée, avec une maîtrise d'ouvrage communale, mais une gestion qui prend différentes formes, en particulier qui peut être confiée à un opérateur national, l'ONE. Et dans les zones rurales, c'est les associations d'usagers auxquelles on confie souvent la gestion des services d'eau et d'assainissement. En Tunisie, on reste sur une gestion centralisée par deux opérateurs nationaux, l'ONAS pour l'assainissement et la SONED pour l'eau, pardon pour la faute. Et dans les zones rurales, également ces services sont confiés à des associations d'usagers locales qui gèrent aussi l'irrigation agricole, l'eau pour d'autres usages. Donc les deux opérateurs, globalement, les opérateurs nationaux ne couvrent pas les zones rurales, donc c'est dans les zones rurales qu'on retrouve des besoins. Donc face à pour répondre à tous ces enjeux et en particulier ceux liés au changement climatique, je vais essayer de montrer quelles sont les grandes lignes des stratégies nationales. Donc bien évidemment, on est dans l'optique d'optimiser la gestion de l'offre et de la demande. Optimiser la gestion de la demande, c'est-à-dire soutenir tout ce qui a trait à l'économie d'eau, en particulier, ça peut prendre la forme de subventions pour favoriser l'irrigation, des techniques d'irrigation économes. Pour ce qui est de la gestion de l'offre, c'est là qu'on retrouve des stratégies de développement des eaux dites non conventionnelles. Je suppose que ça parle à la majorité d'entre vous. Donc, c'est-à-dire exploiter non pas seulement les ressources disponibles souterraines et superficielles, mais également développer la réutilisation des eaux usées traitées en particulier, mais aussi la désalinisation et la récupération des eaux pluviales. Donc, je vais me centrer un petit peu sur la réutilisation des eaux usées traitées, qui est un axe stratégique qu'on retrouve dans le cadre sectoriel au Maroc et en Tunisie, qui est déjà développé dans ces deux pays-là. Alors, il y a certainement des personnes plus expertes que moi qui pourront renchérir, mais globalement, qui est déjà développé dans ces deux pays-là, en particulier pour l'irrigation des espaces verts, des golfs, et qui se développe pour l'irrigation agricole, en particulier déjà en Tunisie, qui prend sa place dans les stratégies nationales, dans tous les différents documents qui composent ces stratégies et ces réglementations, mais avec des plans stratégiques propres à ces sujets-là. Donc c'est vraiment des axes phares de la stratégie du sectoriel de ces deux pays. Et donc si on parle de stratégie qu'on peut considérer comme étant conduite en lien, en réponse au changement climatique, bien sûr, on a les démarches de gestion intégrée des ressources en eau, GIR, qui sont déjà institutionnalisées au Maroc, avec une structuration qui calque un petit peu celle des agences de l'eau françaises, avec des agences de bassins hydrauliques qui sont chargées de la gestion des ressources en eau et de conduire des plans stratégiques pluriannuels. Voilà, globalement, c'est très général, hein, c'est pour brosser un petit peu la situation. Au Liban et en Palestine, je rapproche les présentations, même si les contextes sont assez différents. Globalement, en Palestine, il y a aussi une situation de stress hydrique qui s'aggrave avec le changement climatique. Mais c'est vrai que le facteur prégnant, c'est vraiment le contexte géopolitique, bien sûr, qui contraint l'accès aux ressources en eau. Ça pourrait être développé, le groupe pays Palestine est en même temps que celui-ci. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes concernées par la Palestine. Mais du coup, les accords d'Oslo fixent des quotas de prélèvement dans les ressources en eau. Et le contexte d'occupation rend difficile l'accès aux ouvrages, la construction d'ouvrages, etc. Au Liban, le Liban est plutôt relativement épargné par les problématiques de raréfaction des ressources en eau. Liés au changement climatique en tout cas, mais je dirais que le gros facteur important, c'est vraiment le facteur de gouvernance qui tous les pays ont leurs problèmes de gouvernance, mais là au Liban ça prend une ampleur assez dramatique, surtout depuis la crise. Donc les problématiques d'accès aux ressources sont quand même majoritairement liées, de notre point de vue, à ces problématiques de gouvernance et aux difficultés des établissements des eaux régionaux qui doivent gérer ces services à remplir leur mission. Donc les services d'eau d'assainissement, de même, sont bien développés, surtout pour ce qui concerne les services d'eau, avec des problèmes de continuité et de qualité, mais tout de même. L'accès aux services d'assainissement, environ un tiers, mais le, c'est pas pour autant que toutes ces eaux sont traitées. Donc ça, ça a son importance aussi si on revient sur les ressources en eau, parce que les services d'assainissement mal gérés influent sur la qualité de l'eau. Donc c'est vrai que voilà, la raréfaction des ressources en eau, c'est aussi lié. Voilà, on s'intéresse bien sûr à l'accessibilité de l'eau en quantité, mais aussi en qualité. Donc c'est une problématique aussi importante. Donc au niveau de la façon dont sont gérés ces services. On a globalement une dynamique de re-régionalisation de la gestion des services qui est déjà en place au Liban avec des établissements régionaux des eaux, mais qui ont vraiment des difficultés à faire fonctionner les services. Donc les municipalités sont de fait toujours impliquées et sont les partenaires de certaines coopérations décentralisées. Et en Palestine, on a de nombreux opérateurs décentralisés, mais la loi palestinienne sur l'eau prévoit la création d'établissements régionaux. Et donc les grands axes stratégiques, ben, en Palestine, l'idée c'est d'augmenter le stock d'eau disponible face à ces contraintes d'accès aux ressources qui sont liées en grande partie au contexte géopolitique. Et la réutilisation des eaux usées traitées prend du coup tout son sens stratégique, puisque l'idée c'est de garder les eaux usées traitées, de les traiter correctement pour les réutiliser sur place plutôt qu'elles ne se déversent en Israël. Et bien sûr, réduction des fuites dans les réseaux aussi, qui est un axe stratégique important. Et pour le Liban, l'idée, là, c'est de redresser le secteur de l'assainissement avec les principes de gestion intégrée des ressources en eau et de réduction des eaux usées traitées qui sont posés dans les différents documents du cadre sectoriel, mais qui ont des difficultés à se concrétiser. Donc voilà, le gouvernement met en place des plans de réponse à la crise, mais il y a aussi des initiatives locales qui se développent, portées par des municipalités, la société civile, et qui portent en particulier sur la gestion intégrée des ressources en eau et la réutilisation des eaux usées traitées, avec une forte implication des bailleurs et ONG internationales aussi. Voilà globalement le contexte du secteur de l'assainissement dans ces pays-là. Et en quoi ils sont impactés par le changement climatique, même si ce n'est pas toujours le facteur prégnant, mais qui se corrèle aussi avec d'autres facteurs contextuels spécifiques. Et pour finir, je vais évoquer un petit peu la forme que prend la coopération décentralisée non gouvernementale dans ces pays-là, sur l'eau et l'assainissement. Donc au PSO, on fait un peu un observatoire de ces actions-là. Donc en 2022, on recense 43 actions en cours de réalisation. Sur l'eau et l'assainissement toujours, avec ce qui est important, c'est une répartition à peu près équitable entre des projets qui sont directement portés par la coopération décentralisée, où les collectivités s'impliquent directement, et les projets qui sont portés par les associations, mais qui sont soutenus par les dynamiques d'AECT, que nous, on s'intéresse à toutes ces dynamiques-là. Donc avec voilà, de nombreux projets au Maroc surtout des projets associatifs, et en Palestine, c'est quasiment exclusivement des coopérations décentralisées. C'est un paysage, voilà, une forme d'implication qui est différente. Et je ne vais pas m'attarder, mais globalement, il y a quand même de nombreux projets qui s'intéressent uniquement à l'accès à l'eau et l'assainissement, sans prendre en compte ces enjeux-là dans une vision plus globale. Donc, c'est les enjeux qu'on identifie et auxquels on essaye de répondre, auxquels on essaie de sensibiliser. C'est une meilleure prise en compte de la ressource en eau sollicitée et impactée par les projets d'accès à l'eau et l'assainissement, et d'aller vers une vision plus intégrée de ces projets en lien avec d'autres secteurs qui aussi prélèvent dans la ressource et impactent la ressource. Et aller idéalement vers ce qu'on pourrait appeler une économie circulaire dans le petit cycle de l'eau pour réutiliser les produits qui en sortent, les eaux usées bien sûr, mais aussi les autres sous-produits qui, s'ils sont mal gérés, peuvent également polluer l'environnement et les ressources en eau en particulier. Donc là, je vais balayer rapidement certains projets qui peuvent être mentionnés, qu'on peut considérer comme participant à répondre aux enjeux du changement climatique et qui traitent en particulier de la réduction des eaux usées traitées et de la gestion intégrée des ressources en eau. Donc là, je cite par exemple un projet porté par une association qui s'appelle La Goutte d'eau en Tunisie, qui en est à un stade d'étude de faisabilité, voire de pré-faisabilité. Hein, ces projets en sont à des phases très différentes. Et qui a envisagé la réutilisation des eaux usées traitées pour un usage agricole à partir d'une station d'épuration en cours de réhabilitation. Au Maroc, un projet qui par contre est en phase finale pour réutiliser les eaux usées traitées d'une station d'épuration de Tata dans le cadre d'une coopération décentralisée avec le comité d'agglomération Hérault-Méditerranée, donc qui est en phase de réalisation. une dynamique de gestion intégrée des ressources en eau dans la vallée de l'Arguène au Maroc, qui est initiée et toujours portée par une association qui s'appelle Experts Solidaires et qui implique en coopération décentralisée au fil des années différentes collectivités. Et en ce moment, c'est la métropole de Montpellier-Méditerranée qui est impliquée. Et Occitanie Coopération y reviendra. En Palestine, on a une coopération phare de la ville de Paris avec Jéricho et l'opérateur ouest de Jénine pour appuyer de façon croisée les services d'eau d'assainissement de ces deux opérateurs. Et une étude stratégique est en cours pour envisager l'avenir stratégique des services d'assainissement pour les villes à l'ouest de Jénine. Et la réduction des eaux usées traitées fait partie des sujets étudiés. À Ramallah, il y a une coopération avec la métropole de Toulouse qui s'intéresse à la valorisation des boues d'épuration. Alors voilà, j'insiste sur le fait que les services d'assainissement bien gérés sont vraiment aussi liés avec la question de la préservation de la ressource, y compris quand on s'intéresse aux boues d'épuration. J'ai bientôt fini. Hein. Ensuite, au Liban, on a une coopération qui est en cours de relancement, disons, entre un syndicat d'assainissement francilien qui s'appelle Hydrolis, une commune libanaise qui s'appelle Antoura, pour mettre en place une bonne gestion des bouts de vidange collectés au niveau d'installations individuelles. Et en Palestine, on a une démarche de gestion intégrée des ressources en eau à partir d'eau usée, traitée, réutilisée, qui est mise en place à Hébron et qui implique encore Experts Solidaires. Pour finir, une photographie globale de tous les projets d'accès à l'eau et l'assainissement qui sont portés dans le cadre de la coopération décentralisée dans ces quatre pays, avec une mise en valeur en particulier de ceux qui sont portés dans le cadre de la coopération décentralisée directement. Donc Montpellier Métropole qui a déjà été cité, Comité d'agglomération Hérault Méditerranée. Et les autres petits points, ce sont des projets plutôt associatifs. En Palestine, de nombreuses coopérations décentralisées. J'ai évoqué celles qui avaient attrait justement avec des questions qu'on peut considérer comme étant liées au changement climatique. Mais c'est vrai qu'on peut aussi considérer que les actions qui visent à optimiser les services d'eau d'assainissement et réduire les fuites peuvent aussi participer à réduire les prélèvements dans la ressource en eau. Donc on aurait pu citer cela aussi, en particulier celui de Haut du Bassin Rennais avec la commune de Bétounia. Et au Liban et en Tunisie, un nombre bien plus modeste de projets en cours. Je ne vais pas m'attarder dessus. J'ai évoqué certains qui méritaient, je pense, d'être cités.
Et merci beaucoup pour la Tunisie. On pourra en reparler pour voir ce qu'on peut faire pour développer la coopération décentralisée. Mais pour le Maroc et la Palestine, je crois que Maëlys Daboville, vous pourriez nous parler des projets que vous avez portés là-bas. Et d'ailleurs, cette question, pourquoi faire un projet sur l'eau et pas sur autre chose face aux enjeux climatiques en Méditerranée ?
Alors, en fait, on est donc Occitanie Coopération, c'est le réseau régional multi-acteurs de la coopération de la solidarité internationale en région Occitanie. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un RRMA, vous aurez un micro-atelier demain à 11h, si vous voulez en savoir plus sur ce que sont les RRMA. Nous, en Occitanie, en fait, on est parti justement de notre territoire. Et comme on a un rôle un petit peu d'observatoire, on a fait le constat qu'il y avait un certain nombre de collectivités sur notre territoire qui étaient engagées ou qui souhaitaient s'engager sur les territoires méditerranéens et notamment sur la question de la gestion durable de l'eau. Du coup, on est parti plutôt d'un constat de notre territoire d'Occitanie pour pouvoir monter un projet en lien avec les partenaires de ce territoire. Et c'est vrai qu'aussi, on est parti du constat que sur notre territoire d'Occitanie, on commençait à avoir directement l'impact des enjeux climatiques, et notamment de stress hydrique, de sécheresse, et que la coopération pouvait nous permettre aussi d'apprendre de nos partenaires. Jusqu'à présent, c'est vrai que les projets ont été pas mal pensés nord-sud, Et là, ce projet, il avait vraiment pour objectif de faire travailler ensemble les partenaires du territoire d'Occitanie et les acteurs d'Occitanie sur les questions de la gestion durable de l'eau et leurs problématiques avec les acteurs et les partenaires de deux pays, donc du Maroc et de la Palestine, qui, eux, font face depuis plus longtemps que nous à des problématiques de gestion de l'eau et de sécheresse, et qui ont mis en place aussi des stratégies sur leur territoire. Donc voilà la genèse de ce projet. Donc on a réuni et on a proposé, grâce à un dispositif de la 2ACT, qui est le dispositif clé en main, de pouvoir organiser des échanges entre trois collectivités d'Occitanie, donc la région Occitanie, le département de l'Aude et Montpellier Méditerranée Métropole, qui étaient engagés ou qui avaient des coopérations, mais qui n'étaient pas forcément, je dirais, très actives et qui avaient besoin de redynamiser aussi ces coopérations, de travailler les échanges avec leurs partenaires, donc en Palestine et au Maroc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On avait déjà organisé une mission avec des élus et techniciens en Palestine pour aller avec l'appui d'experts techniques qui est l'expert solidaire, donc vous avez entendu parler par Mélodie. On a sollicité aussi le PSO pour justement faire un petit état des lieux et réfléchir ensemble sur les thématiques sur lesquelles on voulait travailler, parce que c'est un sujet très vaste, la gestion durable de l'eau. Et donc, on a identifié ensemble, avec les partenaires et les acteurs du territoire, les thématiques sur lesquelles on voulait travailler. Donc, on avait réfléchi à travailler sur la gouvernance de l'eau, puisqu'il y a des choses sur lesquelles, en Occitanie, à travers les agences de l'eau, etc., on a quand même une réflexion assez avancée. Au Maroc aussi, les partenaires avaient des choses à échanger. Sur la question de la mise en place des services de l'eau, là, c'était surtout à la demande des partenaires palestiniens. Et puis, sur la réutilisation des eaux usées traitées, qui est quelque chose qui, évidemment, chez nous, n'est pas du tout encore développé. Et on pouvait bénéficier de l'expérience des partenaires palestiniens et marocains sur ces questions-là. Donc, on a organisé une première mission avec Montpellier Métropole en Palestine, avec experts solidaires. Là, l'idée, c'était vraiment de comprendre la problématique de l'eau en Palestine, la situation aussi, de découvrir aussi et d'échanger avec les partenaires, et de préparer aussi les sujets sur lesquels on allait travailler ensemble. On a fait tout un travail aussi d'état des lieux sur notre territoire en Occitanie, d'identification des acteurs qui seraient intéressés pour travailler sur cette thématique. Et puis, on a participé de manière collective, donc région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole et département de l'Aude, aux assises de la coopération décentralisée franco-palestinienne, pour justement aller rencontrer les partenaires des uns et des autres, et puis participer aux tables rondes sur ces questions-là. Et ensuite, on a organisé donc en juin dernier un séminaire de travail qui était à la fois des ateliers de réflexion et des visites de terrain sur le territoire d'Occitanie, donc autour de Montpellier et puis dans le département de l'Aude, où on a accueilli les délégations marocaines et les délégations palestiniennes issues de trois territoires de Palestine et deux territoires, donc Casablanca et la vallée de l'Argane du Maroc. Et c'est vrai que là, ce qui a vraiment été très intéressant dans le cadre de ce projet, c'est déjà que les collectivités françaises travaillent ensemble, parce que ce n'est pas toujours facile de travailler sur les mêmes projets, les agendas ne sont pas les mêmes. Déjà de faire travailler ensemble les collectivités entre elles, de faire se rencontrer aussi leurs partenaires respectifs en Palestine et au Maroc, de faire rencontrer les Palestiniens et les Marocains qui étaient vraiment très satisfaits de pouvoir échanger ensemble sur leurs problématiques et surtout de se rendre compte qu'on avait vraiment des sujets communs et que la coopération avait cet avantage-là de pouvoir vraiment faire travailler sur ces problématiques communes, et qu'il n'y avait pas des sachants et des non-sachants, mais que vraiment il y avait des sujets sur lesquels chacun pouvait apporter. Donc c'est vrai que côté français, c'était peut-être plutôt sur les questions de gouvernance, etc. Côté palestinien, sur la réutilisation des eaux usées traitées. Et aussi côté marocain, bah, sur les services de l'eau, ils ont pu apporter des choses aussi intéressantes. Et donc, suite à ça, ce qui a été intéressant, c'est que du coup, l'association Experts Solidaires a pu déposer un projet auprès de l'Agence française de développement en Palestine, sur les deux territoires, donc en Cisjordanie, sur les deux territoires de la région de le gouvernorat de Toubas et Hébron Nord, auxquels Montpellier Méditerranée Métropole et la région Occitanie vont pouvoir participer et surtout impliquer les services et les agents en charge des questions de l'eau dans ces projets. Ce n'est plus des projets qui restent au niveau des relations internationales, mais qu'il y a vraiment les acteurs du territoire qui vont, et l'expertise qui va pouvoir être impliquée dans ces projets. Et puis l'idée, là, à la suite de ce projet, de poursuivre évidemment les échanges, et notamment sur la thématique de la réutilisation des eaux usées traitées, où là, on a senti qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser, notamment pour le territoire en Occitanie, où on avait besoin de l'expertise de ces différents partenaires. Donc il y a une volonté d'associer aussi de nouvelles collectivités à l'échelle de notre territoire dans ce projet. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. Donc je vois que quand même les RRMA peuvent avoir un peu ce rôle d'unificateur territorial ou régional, c'est ça quand même.
En tout cas, enfin, d'essayer de mettre en, effectivement, de coordonner, en tout cas, de mettre en lien les acteurs du territoire. Oui. Okay. Et c'est vrai que ce qui était intéressant aussi dans ce projet, c'est la logique multi-acteurs. C'est qu'on s'appuie sur les collectivités avec l'expertise d'une structure comme Experts Solidaires, et en s'appuyant sur les acteurs du territoire, où on a beaucoup aussi de centres de recherche. Voilà, il y avait l'INRAE qui a travaillé sur ces questions-là. On a visité aussi des stations d'épuration, tous les services en fait, qui sont impliqués, avec le soutien du PSO aussi sur sa connaissance des problématiques. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce type de projet, quoi, c'est de pouvoir être vraiment dans cette logique multi-acteurs.
Merci beaucoup. On a bien parlé du Maroc et de la Palestine, mais pourquoi pas parler encore plus de la Tunisie et de la situation de la coopération décentralisée là-bas. Alors pour la Tunisie, elle est bien représentée aujourd'hui, puisque nous avons deux membres du ministère de l'Intérieur tunisien et de l'ambassade de Tunisie en France, et aussi la Fédération nationale des communes de Tunisie, représentée par Soumaya et Mouna. Merci encore. Je vous laisse prendre la parole. Je vais vous passer votre diapo. Et vous avez la télécommande à côté. Prenez votre temps.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est Souma Elouer, chargée de coopération internationale et formation à la Fédération nationale des communes tunisiennes. Tout d'abord, excusez ma voix, je risque de la perdre parce que j'ai attrapé froid, une angine au mois de septembre à cause des changements climatiques, certainement. Vous voyez le temps qu'il fait. Alors... En fait, on aimerait faire un état des lieux de ce qui se passe maintenant un peu en Tunisie, du contexte qui reste encore un contexte favorable à la coopération décentralisée. Notre intervention, elle est intitulée comme suit, la coopération décentralisée, levier de localisation des objectifs de développement durable. Puisque vous savez, en fait, il y a des choses communes, mais chaque pays et chaque localité a sa spécificité. Donc on a des agendas internationaux qu'on veut décliner au niveau local, mais il faut vraiment les adapter à chaque collectivité, à chaque pays, à chaque collectivité. Nous avons choisi ce titre car aujourd'hui, dans un monde où nous faisons face à d'énormes défis communs à cause des changements climatiques qui ont touché tous les pays sans exception, riches ou pauvres, développés ou moins développés, nous sommes tous dans le même bateau, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur. Donc la coopération décentralisée se présente comme une excellente façon de lutter contre des problématiques communes, de faire avancer les relations internationales, d'accompagner notre diplomatie nationale et surtout d'amplifier les relations de solidarité et d'échange entre nos peuples pour un véritable partage de compétences dans des domaines variés, sur la base d'enjeux, de visions stratégiques partagées et des politiques publiques exercées dans une logique d'intérêt mutuel surtout, et de renforcement d'expertise pour les territoires. Donc la coopération décentralisée joue un rôle crucial de catalyseur d'échange qui permet de contribuer au développement des pays tout en offrant des opportunités dans une logique d'intérêt commun et de promotion internationale pour rayonner au-delà des frontières. La coopération décentralisée permet surtout, comme je l'avais mentionné au début, de décliner véritablement les objectifs de développement durable et de les adapter aux différents contextes locaux. Aujourd'hui, en Tunisie, après un long travail depuis la Révolution, nous avons un cadre juridique favorable à la coopération décentralisée. Le législateur tunisien, et je dis ça surtout pour les gens qui s'intéressent ici à coopérer avec la Tunisie, et il y a des gens qui ne connaissent pas beaucoup, donc on est là pour vous parler de la Tunisie et des opportunités d'échange avec notre pays. Le législateur tunisien a consacré toute une section dédiée à la coopération décentralisée dans le Code des collectivités locales, qui a été adopté en 2018. Les articles législatifs consacrés à la coopération constituent la section 7, de la coopération décentralisée. Elle est intitulée ainsi, la coopération décentralisée. Et c'est une première en Tunisie. Elle figure dans le livre premier relatif aux dispositions communes du code des collectivités locales. Et c'est une place qui est significative parce que ces dispositions sont en quelque sorte placées en facteur commun avant toute distinction des compétences des collectivités locales et de leurs groupements. On parle aujourd'hui de nouvelles catégories, notamment les conseils locaux, qui seront peut-être aussi en mesure d'avoir une action extérieure. Cela veut dire que toutes les catégories des collectivités locales peuvent entretenir des coopérations décentralisées. Les conventions doivent fixer l'objet de la coopération ainsi entreprise. Une liste non exhaustive de domaines de coopération a été citée par le législateur tunisien dans l'alinéa 2e de l'article 40. Elle porte notamment sur les domaines culturels, sociaux, économiques, la formation professionnelle, le sport, la santé, l'enseignement, l'urbanisme, l'agriculture, la protection de l'environnement, l'appui aux énergies renouvelables et l'égalité entre les sexes. Donc on voit vraiment la présence des objectifs de développement durable via la coopération décentralisée. On constate que cette liste répond parfaitement à ces exigences au niveau local et témoigne de la volonté du législateur d'accorder plus de prérogatives aux collectivités territoriales au profit de la coopération et de la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Tout récemment, une nouvelle constitution en Tunisie, la constitution du 17 août 2022, prévoit au niveau de son préambule « Sommes décidés à œuvrer avec constance et sincérité en faveur d'un développement économique et social pérenne, sans interruption ni discontinuité, dans le cadre d'un environnement sain, afin de rendre plus verdoyante notre verte Tunisie, d'une extrémité à l'autre, car il ne saurait y avoir de croissance pérenne et durable qu'au sein d'un environnement salubre, exempt de toute cause de pollution. » L'article 47 de cette Constitution prévoit que l'État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à la sécurité du climat. Il incombe à l'État de fournir les moyens nécessaires, c'est un engagement de l'État, un engagement constitutionnel, en faveur de l'intégration des objectifs de développement durable dans la stratégie nationale et locale du pays. Au-delà de ce cadre national et contexte juridique national, la Tunisie est aussi engagée. Elle a des engagements internationaux, notamment l'accord de Paris, qui est adopté en 2015 et ratifié par la Tunisie le 10 février 2017. C'est un cadre juridique international pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux impacts du changement climatique. Cependant, ce texte, quoi qu'il en soit, le référentiel en matière de lutte contre les changements climatiques, il n'a pas fait mention de plans climat locaux comme mesure possible. Le Code des collectivités locales, de façon générale, a donné une haute importance pour l'environnement et le développement durable en général. Nous constatons une intégration transversale des objectifs de développement durable du début à la fin du Code, et nous pouvons la déduire des prérogatives des collectivités locales. Cependant, dans le code, il n'y a aucune mention du climat explicite. Donc on attendra peut-être que cette mention figurera dans une prochaine version du code, pourquoi pas. Donc nous avons donc une bonne base de travail en Tunisie juridique. En revanche, ces instruments juridiques doivent s'inscrire dans une logique un peu plus cohérente, en harmonie avec tous les textes qui ont un lien direct ou indirect avec le processus de la décentralisation et les compétences des collectivités locales en général, toutes catégories confondues. Notamment le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, qui doit être revu dans ce sens, et qui jusqu'à maintenant ne fait aucune mention du climat. Le projet de code de l'environnement, c'est un très beau projet, et c'est une première aussi en Tunisie. Cependant, nous constatons une mention quasi absente de la planification climatique locale. On pourrait travailler sur ça. C'est toujours un projet. Et le projet loi climat, qui est en cours de finalisation. Au-delà de ce cadre juridique en pleine évolution, la Tunisie a également adopté des politiques publiques nationales pour la lutte contre les changements climatiques, des politiques publiques qui ont inclus des mesures pour assister les collectivités locales à élaborer des plans climat locaux, telles que la contribution nationale déterminée, la stratégie nationale de développement neutre en carbone et résilient au changement climatique à l'horizon de 2050. Donc il est important de rappeler que ce cadre juridique et politique sont interconnectés et peuvent se compléter les uns les autres, d'où l'importance de la coordination et l'harmonisation entre les différents textes juridiques et les acteurs concernés. Bientôt, le sommet des objectifs de développement durable 2023, l'Assemblée générale à New York, la Tunisie se prépare. Aujourd'hui, les 18 et le 19 septembre, qui va avoir lieu, en fait, voilà. Le ministère de l'économie et de la planification, avec le soutien PNUD Tunisie, a organisé un atelier stratégique rassemblant les acteurs clés impliqués dans la réalisation de l'agenda 2030 pour mettre en lumière l'importance de l'effort collectif pour atteindre les objectifs de développement durable sérieusement menacés ces dernières années. Cet atelier a également permis de souligner la nécessité d'établir un système de suivi et d'évaluation efficace pour le plan national de développement 2023-2025 afin de mesurer les progrès accomplis et prendre les mesures appropriées.
Soumaya, oui. Excuse-moi. Oui. Et on ne va plus avoir beaucoup de temps pour les questions. Est-ce que tu peux nous parler de la place des collectivités tunisiennes face aux enjeux climatiques ou dans la coopération décentralisée en général sur les enjeux environnementaux ?
Exactement. En fait, je vais parler de la coopération décentralisée qui joue un rôle très important par rapport à l'intégration des objectifs des développements durables. Je vais évoquer l'expérience de la coopération décentralisée qui a pu être activée grâce au fonds franco-tunisien de la coopération décentralisée depuis l'année dernière. En fait, la tradition de la coopération décentralisée en Tunisie, elle est ancienne. Il y a une tradition d'action extérieure. Et parmi les outils qui activent vraiment, qui donnent la chance à cette coopération d'être activée, c'est le fonds de la coopération franco-tunisienne, puisqu'on est en France, on parle de cette coopération. Nous avons l'exemple du projet porté par la commune de Soliman et le département de l'Aude en France. C'est un projet sur la lutte contre les conséquences du changement climatique, qui était probablement la priorité la plus importante que s'est fixée la commune de Soliman en Tunisie, le département de l'Aude à l'époque en France, pour leur mandat respectif 2018-2023 et 2021-2027. Leurs actions extérieures est donc logiquement imprégnée de cette dimension. Afin de répondre à cette ambition, le département de l'Aude et la commune de Soliman ont entrepris un important travail de diagnostic territoriaux. C'est un projet en fait qui porte sur la réhabilitation d'une déchetterie anarchique qui menaçait la nappe d'eau et surtout qui était au bord de la Sepra à Soliman. Et du coup, c'est un très beau projet qui était porté par le conseil élu, mais qui a été relancé après la dissolution des conseils et qui a été porté par l'administration, d'où le rôle de notre administration en Tunisie, qui vraiment a pris le flambeau de cette coopération et qui est un garant de continuité de projet. Donc voilà, on est là pour vous rassurer. Il n'y a pas de risque pour les projets de coopération décentralisée. Il y a une bonne volonté de continuer à s'ouvrir à l'international et surtout de réaliser des projets bénéfiques pour nos communes et pour nos habitants dans les deux pays. Et dans cette posture, on a parlé de posture tout à l'heure dans l'autre atelier, de réciprocité, de mutualisation et voilà, d'égal à égal, un peu dans les coopérations décentralisées. Cette coopération entre Soliman et Lod, on a choisi ça parce que c'était vraiment un montage de coopération très intéressant, où il y avait vraiment une implication de plusieurs acteurs. Il y avait principalement le fonds de la DAECT, mais aussi un financement du département audois, mais aussi et surtout un financement de la part de la municipalité tunisienne, qui a elle-même impliqué le secteur privé et activé le principe pollueur-payeur d'une usine juste à côté, qui a contribué au financement de ce projet. Donc c'est vraiment un montage très intéressant. Il y a eu des échanges d'étudiants, de stages, etc. Entre les étudiants, il y a des étudiants français qui sont venus en Tunisie et qui ont visité nos institutions, nos centres d'études et nos universités, qui ont fait des stages ici grâce à cette coopération décentralisée. D'où voilà cette mutualisation qu'on a pu vraiment constater à travers ce cas pratique de la coopération entre Solim. En fait, les exemples sont nombreux de la coopération décentralisée, mais on a choisi vraiment l'un des lauréats cette année 2023 du Fonds de la coopération franco-tunisien. Je vais céder la parole peut-être à ma... Pardon, on a encore
rapidement
un peu
avant
le temps,
les questions.
Ouais, rapidement.
Allez-y, Mouna.
Merci.
C'était juste pour justement évoquer toutes ces pistes possibles de politique publique ou de montage entre associations, collectivités. Vraiment, ce qui a été dit dans les autres ateliers sont importants pour pouvoir travailler tous ces montages au profit des populations et des communes. Donc, il y a vraiment, au-delà de la problématique de l'eau qui est importante, il y a aussi des pistes sur les plans climat. Quand on a contribué à travailler sur la localisation des ODD au niveau local avec le partenaire CGLU Afrique, on s'est rendu compte qu'il y avait des ébauches de plans climat sur deux petites communes. Et en fait, il y a aussi des associations très actives qui essayent de soutenir les communes, l'administration en formation. Donc je pense que la formation et le soutien de compétences est important. C'est important aussi de travailler sur les stratégies et les planifications et les visions par rapport à ce cadre juridique de la loi climat. Ne pas oublier aussi les jeunes et l'inclusion, c'est important. Le tourisme solidaire, le travail sur la gestion des déchets, sur l'économie circulaire, la lutte contre la déforestation, en appui avec aussi tout ce qui se fait. Il ne faut pas oublier aussi que notre pays connaît une avancée du désert dans beaucoup de régions. C'est aussi important de travailler et contribuer à la forestation et aussi la végétalisation. Je pense que la végétalisation des villes est assez primordiale aujourd'hui, où on essaye de repenser la ville. Et on avait travaillé avec la coopération canadienne et l'association tunisienne des urbanistes sur un projet qui s'appelait le droit à la ville. C'est-à-dire comment on pourrait rêver la ville inclusive, où on pouvait organiser et mettre en œuvre tous ces droits et ces ODD au service des populations et au service du développement local, du développement territorial. Voilà, ça, c'était les grandes pistes de réflexion autour de notre volonté de développer les communes.
Merci beaucoup, Mouna. Alors, on a un public très intéressant, mais enfin, un pôle d'intervenants très intéressant, mais un public très intéressant aussi. Est-ce qu'il y aurait des interventions sur les thématiques soulevées? Sinon, Ada, je vous laisserai réagir.
N'hésitez pas si vous avez des observations, des questions. On a encore un bon quart d'heure.
Hein. Oui. Mon conduit, maire de Poitiers et puis présidente de la mission transversale climat de CUF.
Eh bien voilà, la présentation est faite. Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'anime la mission climat de Cités Unies France. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. Et parmi ce qu'on porte en termes d'angle sur la mission climat, c'est le fait que, mais d'ailleurs ça a été dit, hein, que les bouleversements climatiques invitent à repenser les échanges avec plus de réciprocité. C'est-à-dire qu'on a personne n'a la bonne recette en fait face au bouleversement climatique et que du coup, vous venez vraiment de le mentionner, ça invite à aller vers des échanges en plus de réciprocité. Au-delà du discours, c'est parfois difficile à inventer en fait en termes de comment faire. Enfin, on a tous la bonne volonté d'aller prendre les bonnes pratiques de ce qui se fait dans nos pays partenaires et les implanter chez nous, mais Voilà, donc on, avec Cités Unies France, l'une des priorités de cette mission climat, c'est de recenser ce qui se fait de bien. Ce qui se fait de bien en termes climatiques, mais j'irais même plus loin, ce qui se fait de bien en termes de réciprocité. Et du coup, la question que j'aurais, c'est est-ce que dans... Il y a des exemples qu'on a été cités, hein, donc je cherche à aller peut-être plus loin. Est-ce que vous avez des exemples de choses en réciprocité qui fonctionnent ou qui vous ont semblé particulièrement vertueuses sur, sur comment est-ce qu'on peut vraiment avoir des partages d'expériences qui nourrissent des politiques publiques de part et d'autre, quoi. Je sais que Toulouse, par exemple, travaille avec Tunis, mais voilà. Donc,
la réponse. Ouais.
Donc c'est à nous d'inventer la réponse ensemble, mais...
Déjà, on n'est pas spécialiste sur tous les champs de spécialités qui sont évoqués dans le champ climatique, mais bon, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait des montages intéressants, c'est-à-dire il y avait des montages gouvernorat, communes, associations, SONED, régie de l'eau. On a vu ça à Melloulche, mais c'était un vieux travail qui avait été fait. Et qu'est-ce qu'on a recensé encore? On a recensé peut-être sur le sud avec des élus corses aussi. Mais on n'a pas encore peut-être étudié ou recensé ou diagnostiqué ces montages plus particuliers.
Non, ouais, ce que je voulais dire juste, c'est que avant même de parler de réciprocité, enfin, c'est vrai que c'est un enjeu, un objectif un peu en vogue, et on pousse tous à ce qu'il y ait de la réciprocité dans les coopérations parce qu'on en voit tous le sens. Déjà, dans les projets de coopération sur l'eau et l'assainissement, l'enjeu, c'est d'avoir une implication réelle des services techniques des collectivités impliquées. C'est pas toujours le cas, même si on a une coopération où il y a un portage politique, il y a les services relations internationales qui sont impliqués. On n'a pas forcément toujours, les collectivités ont du mal à impliquer leurs services techniques, leurs agents. Voilà, c'est toute une stratégie pour leur dégager du temps, etc. Donc déjà, c'est la première chose, en fait, pour qu'il y ait une réelle réciprocité. Il faudrait qu'il y ait les moyens que les services techniques puissent être directement en interaction dans le cadre des coopérations. Ça se fait. Il y a quelques coopérations où on voit le directeur du syndicat d'eau et d'assainissement, par exemple, qui est directement impliqué. Mais pas toujours un agent qui a dans ses missions l'objectif de suivre ses coopérations. C'est pour ça qu'il y a une place aussi importante des associations expertes en tant qu'assistants à un maître d'ouvrage. Et en particulier dans le bassin méditerranéen, on retrouve beaucoup experts solidaires et AMAP humanitaires aussi. Donc il y a des montages comme ça où la collectivité peut être très impliquée, le service technique via sa direction souvent, et une association qui arrive à un assistant à un maître d'ouvrage. Voilà, donc c'est ce genre de montage qu'on voit souvent dans l'eau et l'assainissement.
Et pour ajouter ce que dit Mélodie, c'est dans le projet qu'on a mené là dernièrement en région Occitanie, c'est vrai que c'est ça qui a été vraiment intéressant, c'est de pouvoir créer ces échanges entre les services techniques, les agents qui ont directement en fait été questionnés par les partenaires, et quand les partenaires sont venus, c'était à la fois des élus mais aussi des responsables de services techniques, et c'était ces échanges directs en fait qui ont fait la richesse du séminaire, et avec des questions vraiment très 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 techniques, quoi, et c'est ça qu'ils ont beaucoup beaucoup apprécié.
J'aimerais ajouter quelque chose pour répondre à votre question, madame. En fait, c'est, la question, peut-être, c'est comment mesurer cette réciprocité et ne pas réduire la réciprocité à une réciprocité technique, des agents techniques, etc. J'ai pu, en fait, constater lors de ma mission, qui n'a pas commencé depuis longtemps, mais un changement et une perception... des choses que vous pouvez peut-être juger intangibles, mais qui ont un impact réel, par exemple des pratiques de démocratie participative en Tunisie. Je cite l'exemple de la Tunisie, puisque je représente la Tunisie, qui était d'une grande inspiration. Parce que vous savez, en fait, la dynamique en Tunisie, il y a des moyens. Notre jeunesse a inventé des façons, de différentes façons de s'organiser et de faire partie du paysage politique et de la contribution dans les affaires locales, etc. Et j'ai noté à plusieurs reprises comment dire, un impressionnement, des gens qui sont impressionnés par les méthodes d'organisation, par exemple, de la jeunesse, une organisation spontanée pour une véritable participation au niveau local dans les affaires locales. La représentation féminine aussi en Tunisie était d'une grande inspiration pour plusieurs collectivités locales, qu'elles soient françaises ou autres, dans la coopération décentralisée, au-delà de l'aspect technique. Hein, parce que l'aspect technique, vraiment, on peut pas dire n'importe quoi. C'est une étude très sérieuse qui doit être faite sur chaque coopération. C'est quoi vraiment la valeur ajoutée du côté des pays du Sud envers les pays du Nord. Mais j'en suis persuadée qu'il y a des choses à partager. Parce que vraiment, la coopération décentralisée ou même les associations, etc., jouent un rôle d'importation, mais aussi d'exportation de savoir-faire. En fait, je parle de la coopération décentralisée de façon générale. On a des experts tunisiens aujourd'hui qui forment à l'étranger, de l'administration municipale, etc., qui forment à l'étranger. Donc, il y a vraiment... cet environnement intéressant ne peut pas passer sans, voilà, sans résultat fructueux à partager avec les autres, parce que c'est toujours intéressant d'accompagner un pays ou bien d'être partenaire avec un pays qui vit une accélération de développement incroyable. En fait, le processus de la décentralisation en France, il est là depuis plus de 40 ans. En Tunisie, c'est une jeune démocratie, c'est un processus qui vient de se mettre en place, et c'est vraiment très intéressant de revenir aux bases, au départ, en fait, aux choses qu'il fallait faire dès le départ pour une vraie décentralisation. Voilà.
Merci Soumaïa. On va prendre encore deux questions. Karim, je crois que vous vouliez, et puis madame.
Bonjour à tous, Karim Oumraoui, directeur des relations internationales à la ville de Marseille. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. J'avais une petite question. Vous avez tous évoqué la manière dont vous faites de la coopération décentralisée, mais peut-être presque de manière très classique et naturelle, en omettant presque que la Méditerranée est un des hotspots les plus importants du globe, avec un réchauffement quand même 2,5 fois supérieur à celui du reste du monde. Et donc, du coup, comment vous associez les mondes de la recherche académique, les scientifiques, dans l'élaboration de vos politiques publiques ? J'entends par là qu'aujourd'hui, on ne peut plus demander à ces acteurs de simplement étudier la ville, on leur demande aussi de participer à la construction de la ville. On a vraiment une urgence, je pense, en Méditerranée, bien plus qu'ailleurs, même s'il y a d'autres régions qui sont aussi très, très exposées. Nous, à Marseille, on a la chance, effectivement, d'avoir des grands instituts de recherche qui sont déployés au Sud, mais il manque presque une dimension d'expertise. Voilà, les prévisions, finalement, s'enchaînent toutes et finalement se contredisent toutes les unes après les autres. On a des prédictions qui, en fait, sont largement avancées dans le temps. Comment vous prenez en compte ces éléments-là pour, effectivement, peut-être un petit peu s'extraire de la dimension plus classique de la relation décentralité entre des villes du Nord et du Sud? Voilà, c'était une question pour réunifier un peu tout le monde.
Alors, c'est une question avec une contribution. Je suis Nathalie Dupont, je suis la directrice de l'ONG AMAP humanitaire que Mélodie a mentionné plusieurs fois. Et effectivement, nous sommes, nous, en accompagnement, en assistance à maîtrise d'ouvrage ou en accompagnement simple de coopération en France et qui sont en lien avec des collectivités locales au Sud. Et je voulais vous dire que nous sommes en train de mettre en place une feuille de route pour la protection de l'environnement et sa prise en compte dans toutes les questions d'eau et d'assainissement. Et on compte travailler un petit peu, là je venais d'en dire quelques mots avec Constance Quicqui de CUF, qui est aussi responsable de ce sujet-là. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas envisageable en fait, de continuer à travailler sur l'accès à l'eau potable sans tout de suite réfléchir à sa préservation dans le temps, à la préservation de la ressource, à sa réutilisation. Donc ça suppose en fait très en amont de penser à ces questions-là. Donc il y a quelques projets sur lesquels on travaille qui ont été... mentionné là, au Liban, Soliman, en Tunisie. Et je pense que l'approche multi-acteurs est particulièrement importante. Et ma question, en fait, rejoignait celle de monsieur, qui est, en fait, comment travailler mieux avec des universités. En fait, on apprend en marchant, il ne faut pas hésiter à innover et à tenter des choses nouvelles. La France n'est pas la plus exemplaire sur la réutilisation. Donc là, on peut avoir vraiment des expériences dans les quatre pays que vous mentionnez qui sont presque plus avancé quelquefois que ce qu'on pourrait trouver en France. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce que là, du coup, il y a une réciprocité dans la relation et une recherche commune. Voilà.
Est-ce que Ada, tu veux répondre ?
Pour réagir à ces dernières questions, en fait, elles se rejoignent toutes. J'avais pas mal d'observations, mais pour m'en tenir à ces dernières observations, questions et réflexions, c'est la question de la réciprocité ou la question de l'échange. Donc, alors, ayant à l'esprit quand même les échanges, où l'échange est inégal, hein, parce que c'est des conditions, c'est des développements, c'est des richesses. Et donc, qui sont différentes. Les santé économiques, je ne parle que de l'économie, sont différentes dans ce type de coopération nord-sud au niveau de la Méditerranée. Ça, c'est le premier élément qu'il faudrait avoir à l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on vient comme donneur de leçons, étant donné qu'on ne vient même pas comme donneur de fonds, parce que les fonds qui sont mis en œuvre sont insuffisants, en tout cas. Donc, et ça, il y a beaucoup de choses à dire. Mais sur la question de l'apprentissage, réciproque, si je puis dire, ou l'échange d'expérience. En ce qui concerne, par exemple, la question de l'utilisation de l'eau, que la question de l'utilisation de l'eau, je pense qu'on a énormément à apprendre des pays du Sud, donc aujourd'hui. Et se pose une question, mais c'est une question qui se pose à tous les niveaux, au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales. C'est la question de l'impulsion politique. L'impulsion politique. Il faudrait que moi, je suis élu, donc il y a un maire à la ville de Colombes qui, lui, donc, s'implique dans la coopération internationale, coopération décentralisée, qui tout de suite a dit je pense que nous avons des choses à apprendre en termes d'utilisation de l'eau. Mais au moment où il le dit et le moment où ça va se faire, ça va prendre énormément de temps parce qu'il faudrait que les mentalités aussi s'imprègnent de cet enjeu. Et ce n'est pas facile, déjà, au niveau des personnes, ça l'est encore moins au niveau des institutions. L'autre élément qui a été soulevé, et c'est un élément récurrent depuis fort longtemps en matière de coopération décentralisée, mais pas uniquement, même en matière de coopération entre États, entre pays, c'est la question de l'implication, en tout cas, ou de l'utilisation des données scientifiques, des recherches par les politiques publiques. Ça ne se fait pas suffisamment. En France, ça se fait très, très peu, malheureusement. Même au niveau des politiques publiques nationales, aujourd'hui, ça ne se fait pas. Si on écoutait beaucoup plus les chercheurs, donc, encore une fois, c'est aux politiques de prendre la décision. Mais ça n'empêche pas les politiques de s'enrichir, si je puis dire, de se nourrir des réflexions et des recherches, en tout cas, et de l'état des connaissances actualisées. Ça ne se fait pas, ça se fait très, très peu. Au niveau des collectivités territoriales, ça dépendra des niveaux, en tout cas, des niveaux d'importance de l'échelon territorial. Je pense que c'est un élément qu'il faudrait introduire aujourd'hui. Et enfin, dernier point qui a été posé et sur lequel nous avons énormément à apprendre des collectivités du Sud et des sociétés du Sud en général en termes d'implication de ce qu'on appelle les organisations de la société civile. Le Maroc a une expérience très, très importante en matière de développement par les associations. Ça ne veut pas dire que ça remplace le rôle de l'État, non. Mais au moins, en termes de participation, en termes de formalisation des politiques publiques, en tout cas, ça joue énormément dans l'apport de réponses à des questions qui se posent. Aujourd'hui, la société civile se mobilise beaucoup au Maroc, suite au tremblement de terre, au drame que vient de connaître le Atlas. Et ça, c'est un élément important. Enfin, bref, ce que je veux dire aujourd'hui. Et puis, l'histoire ne se répète pas, mais de temps en temps, il faudrait quand même s'appuyer sur les bonnes expériences de l'histoire. En 1990, au milieu des années 90, il y a des programmes européens de coopération décentralisée qui ont été lancés par l'Europe sur la base des réflexions. Je dis bien sur la base de réflexion et d'impulsion de milieux de la recherche et politique français. C'est les fameux programmes MedURBS, MedCampus, MedInvest, les universités. Et puis, au bout de 2 ou 3 ans, il y a eu uniquement au niveau des collectivités territoriales, près de 500 collectivités territoriales qui coopéraient en 1994, qui coopéraient entre elles. Et je ne parle pas des universités, des entreprises, des associations. Et puis, à un certain moment, on s'était dit, ce programme-là, moi, j'avais travaillé là-dessus, disait, il fallait un programme dit d'expérience ou d'implication fertilisée, ou je ne sais pas quoi, donc, comme l'Union européenne ou la Commission européenne a le secret de ce type de jargon. Et donc, pour dire, il faut des approches intégrées avec des multi-acteurs, comme ça a été dit, que ce soit par PSO ou autre, il faut des multi-acteurs. Il faut la mobilisation de la société. Pour finir sur ce point-là, je pense qu'il y a lieu de voir ce qui se passe au Sud, surtout en ce qui concerne de l'eau. Et je pense qu'on a tout intérêt à bénéficier des expériences du Sud, sachant que l'égalité dans l'échange n'est pas pour demain, si je puis dire.
Merci beaucoup, Ada. Et je pense qu'il y a... Enfin, bon, je vais vous libérer, je ne vais pas vous séquestrer, mais je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui aurait mérité qu'on le mette sur la table, c'est aussi la vulnérabilité des collectivités autour du bassin méditerranéen face au changement climatique et à ses aggravations. Et vulnérabilité qu'on a vue aussi au Maroc, même si ce n'était pas vraiment dû au changement climatique, mais c'est de la vulnérabilité quand même. Nous, à CTUNI France, on va lancer un fonds de solidarité Maroc qui sera là en appui aux collectivités marocaines et on espère compter sur le soutien de vos collectivités pour remédier à cette vulnérabilité-là. Et puis, pour faire le lien avec les enjeux climatiques en Méditerranée, on espère pouvoir aussi mener un projet de coopération décentralisée au Liban sur la thématique des énergies renouvelables, notamment solaire, avec nos partenaires du BTVL qui sont plus haut là. Et puis sur l'insertion professionnelle des jeunes aussi, en lien avec tout ce qui est énergie solaire, environnement, mais c'est à voir aussi en fonction des secteurs qui sont où l'employabilité des jeunes sera la plus forte. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos interventions à tous et votre intérêt pour cette thématique-là. Je pense qu'il y aura encore à donner suite à ces échanges à CUF ou au prochain RICT. Voilà, je vais vous laisser partir.